Bonjour et bienvenue sur Radio Rolliste pour encore un nouveau hors-série, toujours dans la convention Eclipse à Rennes. Et cette fois-ci, nous recevons Valentin de Agathe RPG, qui va donc nous parler des ombres d'Esteren. Donc bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux nous dire un peu comment tout cela s'est créé? Parce que je dois avouer, je ne connaissais pas Agathe RPG. Donc, est-ce que tu peux un peu présenter
C'est pas étonnant. Alors, Agathe RPG, c'est une petite société d'édition qui s'est créée il y a maintenant 4 ans, particulièrement autour du projet des Ombres d'Esteren et du travail de cette association, de ce collectif d'auteurs qui s'appelle Forge Songe, qui crée les Ombres d'Esteren.
D'accord. Comment tu les as connus
Je les ai connus parce qu'en très simplement, en connaissant quelques-uns d'entre eux depuis un certain temps et ayant pu donc avoir un œil attentif et passionné sur l'évolution de ce projet, sa mise en place, son démarrage, sa structuration et de voir comment ce projet associatif pouvait-il devenir à un moment donné un projet pro qui allait aboutir à la publication d'une gamme de jeux de rôle entre guillemets digne de ce nom avec tout ce qu'il y a dans un vrai jeu de rôle et qui justifie d'être imprimé et ensuite d'être diffusé le plus largement possible, quoi.
D'accord. Et donc ce jeu, alors de quoi parle-t-il ?
C'est un jeu qui pose un décor, on va dire très simplement, c'est une sorte de Cthulhu médiéval.
D'accord.
Donc, on imagine un appel de Cthulhu dans une ambiance moyenâgeuse assez réaliste. C'est-à-dire c'est un jeu quand même assez low fantasy, dans la mesure où on n'a pas d'elfes, de dragons, de nains, etc. On a strictement des populations humaines.
Mm-hmm.
Ces populations humaines, néanmoins, sont quand même contraintes et un petit peu malmenées par toutes sortes de créatures qui peuplent les ombres un peu partout, qui sont dénommées de manière commune par le terme de Feondas.
Feondas. D'accord.
En fait, c'est un jeu qui a une souche, une base tradition celtique, gaélique. Donc c'est quelque chose où on va retrouver dans ces traditions quelque chose de l'ordre du druide, de la rune, des esprits animistes, de la forêt, du lac,
d'accord.
etc.
Okay.
Ça c'est les traditions, c'est vraiment la souche traditionnelle du peuple d'Esteren et ces populations ont été influencées puisque là l'action se déroule sur le point de départ, en tout cas sur une péninsule qui s'appelle Tricazel qui signifie trois royaumes, et si l'un de ces trois royaumes est resté assez sur les fondamentaux traditionnalistes, donc druidiques celtiques, deux autres royaumes eux se sont vus un petit peu influencés par des courants de pensée, des idéologies de l'extérieur et en l'occurrence du continent. L'une d'entre elles c'est une théologie monothéiste.
D'accord.
Qui s'appelle le Temple et qui s'est propagé au sein du royaume de Guidre, un royaume de l'Ouest. Le royaume de l'Est, celui de Reis, lui a été influencé par un autre courant de pensée qui est celui du progrès par la science.
D'accord.
Ce qu'on appelle, nous, la magience, c'est une espèce de recherche scientifique devant aboutir à l'augmentation de l'individu par le progrès. Donc c'est des recherches, toutes sortes d'élaborations de mécanismes et de rouages qui vont être mués par la force d'un carburant, une sorte
D'accord.
de pétrole en fait, qui une fois raffiné s'appelle le flux, et ce
D'accord.
flux en fait c'est quelque chose extrait du sol, c'est végétal, c'est minéral, ça peut être organique, toutes sortes en fait de sources dont les magiantistes en fait vont parvenir par toutes sortes de procédés assez élaborés à extraire une énergie, quelque chose qui est contenu en chaque chose en fait, dont ils arrivent à extraire l'énergie, ils la raffinent, ça fait une sorte de carburant. Et avec ce carburant, ils vont animer toutes sortes de mécanismes, des assemblages, des
D'accord.
presque
mais
machines.
C'est, mais
quoi.
C'est considéré comme vraiment du pétrole, en fait.
C'est ça. Voilà. Donc il y a des forages, il y a des excavations, il y a des mines, etc.
Bon, D'accord.
Évidemment, on peut imaginer que c'est pas quelque chose de très bien vécu par les populations traditionnelles qui ont vu arriver ça, se propager, modifier quand même assez sensiblement
l'écosystème,
l'environnement. voilà. Donc les traditionalistes, on va dire, druidiques, qu'on appelle chez nous sur Esteren les démortaines, effectivement on voit pas ça d'un très bon œil. Ce qui est intéressant c'est que ces trois grands mouvements, ces trois grands idéaux peuvent s'opposer mais aussi se compléter, c'est-à-dire que c'est
D'accord.
pas blanc ou noir, c'est beaucoup plus subtil que ça en fait, il y a vraiment
Okay.
dans les organisations et on va dire entre guillemets la géopolitique.
D'accord. Et entre eux, c'est une lutte idéologique ou militaire ou philosophique?
Ça dépend en fait des individus qui l'incarnent. Il y en a qui vont amener la question sur le plan militaire, d'autres qui vont être dans des élaborations plus philosophiques.
Mm-hmm.
Ça dépend des individus. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que selon ce qu'on a envie d'incarner, selon ce qu'on a envie de jouer dans les ondes d'Estérène, on n'est pas forcément cantonné ou obligé d'interpréter un mouvement de pensée ou un idéal d'une manière unique ou systématique.
Oui.
C'est-à-dire que
ce ne sont pas des purs archétypes.
Non, absolument pas. Et c'est intéressant, c'est que il y a effectivement des extrêmes, mais comme dans la vraie vie, et il y a aussi des modérés. Il y a tout. Et c'est vraiment intéressant justement aussi de voir que les personnages dans Estérène sont vraiment des individus qui nous ressemblent autant que faire se peut, c'est-à-dire que autant quand on va créer son personnage, il va avoir des convictions, des motivations, des centres d'intérêt, des forces, des faiblesses, bref, c'est un nous quoi. C'est voilà, on n'est pas des gens, on n'est pas des super-héros, on n'est pas blindés absolument. Il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres, qui vont même parfois totalement nous détruire, et d'autres qui vont nous renforcer, d'autres qui voilà vont nous enflammer, bref. Ce qui est intéressant, c'est que le point de départ du personnage ne sera pas vraisemblablement son point d'arrivée. C'est-à-dire que autant vous pouvez créer un personnage qui va avoir une tendance traditionnelle, proche des Démortaines, etc., où les cultes voués à la nature sont pour lui quelque chose qui fait sens. Il se peut que ses aventures, ses rencontres, l'amène à éventuellement remettre en question un certain nombre de ses convictions. Tout simplement parce que, comme vous et moi, on peut changer d'avis.
D'accord.
Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des personnages dont le point de départ est un vrai point de départ, mais ça va vraiment dépendre de vos choix, de vos orientations et de vos décisions. Quoi.
Et on joue des personnages qui sont issus des trois...
De ces trois royaumes.
De ces trois royaumes, d'accord. Donc avec... Chacun a des convictions différentes à la base.
Oui, c'est ça. Qui nous distingue, ce qui fait que je ne suis pas vous et que vous n'êtes pas moi, c'est qu'à un moment donné, on a sans doute peut-être des points de vue convergents et d'autres divergents. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble en étant à la fois d'accord sur certaines choses et pas d'accord sur d'autres.
D'accord.
On va s'apercevoir qu'il y a des moments où ça va être très très compliqué et qu'à d'autres moments, il va bien falloir peut-être aussi dépasser certains clivages pour faire face à quelque chose qui, là pour le coup, nous met tous d'accord, c'est qu'à un moment donné, il y a potentiellement une menace qui pèse sur les peuples humains de Tricazel et des ombres d'Estérène.
Et quelles sont ces menaces en fait ?
Justement, c'est ce qui s'exprime sous le terme de Féondas, c'est-à-dire que c'est une sorte d'incarnation d'une réponse, quelque chose qui a l'air de réagir.
Réagir à quoi ?
Réagir à quoi selon les points de vue, voilà, chacun son idée. C'est-à-dire que, par exemple, les adeptes du temple vont imaginer que les incursions de Féondas, qui quand même sont assez violentes accablent les peuples humains, pour les adeptes du temple, leur lecture, ce sera très simple, c'est que ces populations qui subissent ces violences, soit expient un mal qu'elles auraient fait, ou alors, tout simplement, c'est le signal pour elles qu'il est temps de rejoindre la lumière de l'unique, n'est-ce pas ?
Et donc ce serait dû aux incroyants.
Et voilà, c'est ça, c'est terrible.
Pour les traditionalistes celtiques.
C'est très simple, c'est que produisent les magiantistes, par exemple, de raser des forêts, de forer des puits dans les montagnes, en se souciant absolument pas du tout des écosystèmes et de leur environnement, la nature leur rend.
D'accord.
Et que malheureusement, sans discernement, elle accable tout le monde. Et que finalement, c'est bien la faute des magiantistes si aujourd'hui on en est là.
D'accord.
De leur point de vue, à l'inverse, les magiantistes vont considérer les adeptes du temple comme des illuminés éventuellement et les traditionalistes comme des sorciers un peu obscurs, tous deux étant évidemment loin de la vérité, et que la seule solution pour réussir à survivre face à ce mal qui grandit et qui se fait de plus en plus menaçant, c'est bien la science et le progrès.
D'accord.
Évidemment. Et il faut bien ces mécanismes et ces rouages magiantistes et ces solutions technologiques pour que l'homme se développe face à cette nature qui elle-même se développe. L'homme ne peut pas rester là
regarder pousser les arbres,
manipuler des petits cailloux en invoquant les esprits ou alors en mettant les bras et les mains en prière, voilà, levant les yeux au ciel. Et non, c'est pour eux, ça c'est pas possible, ça n'a aucun sens.
Et alors j'ai encore oublié le terme, les ombres là, ce sont des
Féondas, ça signifie l'ennemi,
voilà. D'accord. Et ça se manifeste comment physiquement?
De toutes sortes de formes. Généralement c'est des mutations, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce qui peut vous sembler anodin dans votre environnement peut du jour au lendemain s'avérer être votre pire ennemi et la plus grande des menaces. C'est-à-dire que ça peut être des volatiles, des animaux, ça peut être aussi des végétaux, toutes sortes de choses qui vous entourent en fait. Mm-hmm. Hein. Enfin, il y en a voilà partout autour de vous que vous pouvez normalement dominer.
Oui. Hein,
comme des animaux domestiques, que sais-je. Il se peut qu'à un moment donné, ces créatures développent une sorte de mutation qui les fasse changer, qui les fasse se transformer en quelque chose de beaucoup plus menaçant pour vous, en fait.
D'accord. Ils deviennent plus gros, plus agressifs.
Une sorte, effectivement, de formes. Certaines totalement insidieuses, presque invisibles. Mm-hmm. D'autres plus ostentatoires.
D'accord.
Mais quoi qu'il arrive, ça plonge les peuples humains de Tricazel dans une espèce de paranoïa et d'angoisse permanente.
Mm-hmm.
De se méfier de tout et d'absolument tout et d'être tout le temps un peu sur ses gardes.
D'accord. Et ça touche les humains également ?
C'est-à-dire, oui, surtout même d'ailleurs.
Quand tu dis des mutations, c'est-à-dire ils ont des membres qui se déforment, ils ont des...
Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple un loup est une créature à la base assez craintive.
Uh-huh.
On a une idée reçue sur un loup qui pourrait attaquer l'homme, etc. Mais en fait, c'est rarissime de voir un loup. C'est déjà une grande chance. C'est assez exceptionnel. C'est des créatures qui se tiennent très très éloignées de l'homme, naturellement.
Oui, tout à fait, oui.
En l'occurrence, là, un loup qui se serait vu, entre guillemets, transformé, muté en Féondas, sera une créature beaucoup plus téméraire et qui risque de se jeter sur vous avec une force décuplée au point de pouvoir éventuellement ravager un village entier, quoi.
Ah oui, donc, belle bête déjà.
Ah oui, non, c'est... Esteren est un monde violent.
D'accord.
Vraiment. C'est-à-dire que les personnages qu'on joue dans Esteren vont vraiment devoir faire gaffe. Ils vont vraiment.
Et du point de vue du système, cette violence est aussi retranscrite.
Alors, hein. La répercussion dans le système de jeu, c'est que les résolutions d'action et de combat, en l'occurrence, sont assez expéditives.
D'accord.
C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre 80 coups d'épée avant de vous effondrer, quoi. Les joueurs vont très très vite réaliser qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tous permettre.
D'accord.
Et qu'il va falloir faire très 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 attention à sa peau. Et c'est vrai que le système là-dessus est assez, assez simple, assez facile à prendre en main. Et vous fait réaliser très vite que, comme en vrai, entre guillemets, hein, on n'encaisse pas tant que ça et si bien que ça. On est des créatures fragiles quand même, nous les humains.
Et donc on peut s'attendre à perdre son personnage relativement rapidement.
Oui, alors après, il faut essayer de faire attention. Il y a quand même des signaux assez évidents pour vous faire sentir le danger, etc., de manière à ce que vous puissiez éviter quand même un certain nombre d'écueils. Maintenant, il y a aussi des solutions qui vous permettront éventuellement de vous sortir d'une impasse, sans quoi ça aurait été très compliqué.
D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu le type de personnage qu'on est susceptible de jouer dans les Ombres d'Esteren ?
Alors, dans les Ombres d'Esteren, on va dire, si on fait une petite galerie d'archétypes, on va avoir le guerrier, clairement, qui est un personnage assez fondamental de la société d'Esteren, dans la mesure où c'est lui qui protège les populations. On va avoir des personnages un peu plus subtils, comme les Démortaines, qui sont effectivement donc les garants des traditions des peuples de Tricazel,
d'accord,
associés aux druides.
Et c'est plutôt un rôle social ou...
C'est un rôle à la fois social, défensif également, et de conseil.
D'accord.
Okay. Voilà, les Démortaines sont vraiment des personnages
des sages,
assez emblématiques, voilà, qui vont participer à la vie sociale, clairement. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans Esteren, tout le monde participe à la vie sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de clivage. Même le paysan qui laboure sa terre, hein, il a son mot à dire et il participe vraiment à la vie de sa cité. Hein.
D'accord.
C'est très important.
Parce que tu parlais de royaume tout à l'heure, donc il y a quand même une hiérarchie.
Alors, il y a une hiérarchie, bien sûr. Alors, on est quand même dans une ambiance très rurale. Hein. Il y a quelques grandes cités, effectivement, qui concentrent le pouvoir décisionnel sur les royaumes.
D'accord.
Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, on peut constater que cette influence et que l'aura de la grande cité, quand même...
décroît très vite.
Voilà, se dilue quand même assez rapidement. Et
d'accord.
Que les populations rurales sont très autonomes et autarciques, hein, quand même.
D'accord, ok.
Donc, c'est des micro-sociétés, des micro-organisations, donc qui s'organisent vraiment autour d'elles-mêmes.
Uh-huh.
Donc, les Démortaines, les adeptes du temple, évidemment, qui vont... Oui. Pré- prêcher leur foi, à essayer d'augmenter et de faciliter les conditions de vie des uns et des autres, en essayant effectivement de ramener à leur conviction un maximum d'entre nous. On peut jouer aussi également donc des magiantistes. Alors les magiantistes, c'est intéressant aussi dans la mesure où l'approche de la magiance peut être multiple, c'est-à-dire que les courants de pensée et les pratiques au sein de la magiance sont elles-mêmes multiples.
Il y a plusieurs écoles.
Voilà, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs courants de pensée qui s'opposent d'ailleurs. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il n'y a pas forcément un consensus absolu dans toutes les façons de faire et de penser. Il y a aussi une catégorie de personnages qui est très importante dans les ombres des Sterelles, qui sont les bardes. Les bardes, il faut savoir qu'il y a une grosse base de tradition orale dans les Sterelles. Donc ces gens-là, évidemment, qui maîtrisent la rhétorique et l'oralité, sont assez décisifs pour tous les organes de pouvoir. Puisque pour certains des bardes, d'ailleurs, on les considère carrément comme des éminences grises. C'est vraiment des conseillers d'élite, on va dire, pour les grands seigneurs.
D'accord.
C'est aussi ceux qui vont écrire les textes et les récits qui aussi laissent un témoignage important et qui permettent dans les bibliothèques des cités et des académies des universités de transmettre un savoir sans quoi ça serait très très compliqué.
D'accord.
Après il y a toutes sortes de corps de métier, par exemple spécifiquement...
Tiens, j'ai une question, tu parles de scientiste, et quel est le niveau approximatif de technologie dans cet univers?
Alors, ça dépend. On reste quand même dans une ambiance médiévale, donc ça reste des rouages et des mécanismes assez grossiers, malgré tout. On peut aussi en observer des beaucoup plus fins et des beaucoup plus sophistiqués. Ça va vraiment dépendre de leur emploi, de leur utilisation. Une des grandes cités du Sud, d'ailleurs, a reçu une optimisation magiantiste, puisqu'c'est une cité en escalier, elle s'appelle Ostabail, c'est la capitale de Taolkaer, à flanc de montagne. On imagine bien que les populations les plus riches qui vivent dans les étages supérieurs de la cité vont pas s'amuser à monter toutes les marches comme n'importe qui, et donc on leur a construit des élévateurs. Donc ça, c'est vraiment le truc super visible, c'est la magie dans tous ses états, c'est vraiment assez impressionnant de la même manière.
Donc en gros, c'est un téléphérique à moteur ou
c'est... Oui, non, c'est une sorte d'ascenseur qui marche avec des mécanismes assez sophistiqués. Il y a aussi les luminaires qui sont des sortes de systèmes d'éclairage public qui fonctionnent avec du flux et qui effectivement permettent aux quartiers les plus huppés et les plus aisés de pouvoir jouir d'une promenade nocturne éclairée.
D'accord. Mais il n'y a pas de...
Ça reste exceptionnel, bien sûr.
D'automobile, de...
Non, il n'y a pas de... En termes de véhicules, c'est quelque chose qui reste très primitif.
D'accord.
Les gens se déplacent à pied, à cheval ou à dos d'une créature spécifique qui s'appelle le caernide, qui est une sorte de mélange entre un renne, un cheval, un bouquetin, quelque chose de très agile pour les milieux montagnards.
Ah, ok, d'accord.
Qui permet effectivement à certains de se déplacer sur des parois très escarpées.
D'accord, je vois. C'est animal de bas et en même temps.
Notre référence pour cette créature, ça a été la monture du prince Ashitaka de Princesse Mononoké, si ça vous parle.
Je l'ai pas vu.
Dommage.
C'est pas de chance. Mais ça donnera probablement un indice aux auditeurs.
Voilà.
Qui eux sont plus cultivés, ils l'auront vu.
Donc au niveau des rouages, on en est là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie assez développée de la magiance en termes de techno sur des dispositifs presque chirurgicaux, avec des magiantistes qui se sont spécialisés dans la dissection, toutes sortes de pratiques qui peuvent paraître assez suspectes pour certains, mais qui pour eux leur amènent un grand progrès et une compréhension sur la vie. Comment ça fonctionne, comment ça marche, et qu'est-ce qu'on peut en tirer.
Elles ont des bases de médecine.
Donc il y a quand même des choses très élaborées, mais qui sont plus confinées.
D'accord. Et de l'alchimie, ou en tout cas de la chimie.
Oui, il y en a aussi. Il y a des laboratoires dans lesquels effectivement toutes sortes de concoctions sont élaborées à base de toutes sortes de choses. Ça dépend vraiment des uns et des autres, de ce que chacun cherche en fait et essaye de trouver. Est-ce que certains travaillent davantage dans une sorte d'intérêt public, comme les élévateurs, là on est au service des populations, et d'autres servent des intérêts beaucoup plus personnels et plus obscurs pour certains.
D'accord. Ok, donc tu disais tout à l'heure que ce monde est plutôt low fantasy, mais les personnages peuvent-ils avoir d'une manière ou d'une autre des trucs surnaturels
Absolument, il y a une dimension surnaturelle dans le jeu, c'est très important.
Oui.
C'est aussi ce qui amène la dimension horrifique du jeu, parce
D'accord.
que on est dans dans un jeu clairement avec une tendance horrifique assez nette.
Oui, c'est vrai que tu parlais de Cthulhu,
voilà,
tout au début.
Le surnaturel, il est là. Il est tapis dans l'ombre, il est latent. Il est, sa présence, en fait, est permanente. Elle est plus ou moins évidente, c'est tout.
Mm-hmm.
Elle se révèle de façon plus ou moins spectaculaire, mais elle est là de manière un peu permanente, latente, même au fond de nous-mêmes.
Mm-hmm.
Et en fait, ce surnaturel, il va pouvoir s'exprimer à la fois dans les pouvoirs
oui.
que vont réussir à obtenir à la fois du créateur, le dieu unique,
oui.
pour les adeptes du temple,
uh-huh.
qui vont quand même, quoi qu'on en dise, et ça, même les plus sceptiques sont obligés de l'admettre, ils vont réussir à accomplir ce qu'on appelle des miracles.
D'accord.
Alors là, quand vous vous retrouvez face à ça, bah, vous avez beau ne pas y croire, c'est là pour vous. Ça se produit, c'est exceptionnel, mais malgré tout, ça se produit.
D'accord.
De même que les Démortens, ils tirent aussi cette sagesse et ce respect à travers toutes les populations traditionnelles mm-hmm. de Tricazel. C'est bien parce qu'aussi, ils ont fait la démonstration que la vénération des esprits et du culte des esprits avait du sens.
D'accord, c'est le culte des esprits ?
Oui, oui, oui.
Parce que tu parlais d'animisme.
Oui, oui, bah c'est ouais. ça. C'est les esprits de la forêt,
ah, oui, d'accord.
etc. Les esprits des animaux, etc. Et tout. Et leur façon de communiquer avec ces éléments, et voire même de les contrôler, dans certains cas, se fait par la manipulation d'ogam. Ce sont des pierres, des petits cailloux runiques sur lesquels il y a des inscriptions. Et les Démortens les plus sages, les plus compétents, parviennent en manipulant ces pierres à effectivement déclencher, pour certains, des phénomènes. Tout à fait significatif, météorologique, géologique, de nature effectivement à laisser bouche bée les plus
à
sceptiques.
À quelle échelle hein ?
Plus ou moins grande.
C'est-à-dire, tu peux déclencher des tempêtes
Voilà, par exemple, on raconte que certains, effectivement, arrivent à faire tomber la foudre ou à
d'accord.
geler
ah
un
oui,
lac,
c'est bien,
etc.
C'est costaud
etc.
quand même.
Oui, ça... Et alors après, effectivement, c'est peut-être pas quelque chose qui se produit tous les 4 matins.
Oui,
c'est
oui,
peut-être
bien sûr.
Réservé à quelques-uns parmi tous les Démortens. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on sait que ça a existé, que ça existe, que c'est possible. Évidemment, les Démortens le défendent. À l'inverse, les magiantistes, qui eux, effectivement, sont dans le pragmatisme absolu.
Pur, oui.
et le rationalisme le plus total, vont essayer, effectivement, d'aboutir parfois à des résultats équivalents,
ouais.
Mais en usant de leur science et de leur technologie. Donc, par exemple, certains magiantistes vont réussir à fabriquer des mécanismes portatifs, voire même certains se les greffent eux-mêmes,
ah oui,
prolongent leur corps
avec
toutes sortes d'artifices assez curieux.
C'est ce que tu voulais dire en parlant de médecine.
voilà. Oui, oui. Si on part du principe qu'effectivement la créature humaine de base est fragile, certains essaye de contourner ses fragilités en la
d'accord.
renforçant de manière artificielle.
D'accord.
Mais en poussant le truc très très loin. Quoi. Donc on est à la limite du mythe de Frankenstein hein, sur deux trois trucs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, on s'aperçoit qu'on peut obtenir des résultats assez significatifs puisque
d'accord.
le carburant du flux, selon son raffinement et son origine, peut être plus ou moins puissant
oui.
et aboutir à des résultats assez... explosif.
C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des greffes qui fonctionnent avec le flux ?
On en parle. Bon, alors là, il faut quand même passer un cap.
Déjà, a priori, il faut survivre à l'opération.
Il faut se l'infliger soi-même, sans doute. Ou alors, vous êtes le cobaye malheureux d'un collègue assez enthousiaste. Ça dépend. Ça peut effectivement donner lieu à toutes sortes de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, chacun défend son bout de gras.
Ouais.
Néanmoins, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il risque de s'avérer... Déjà, objectivement, vous allez être amené à constater que peut-être que chacun qui pense avoir raison détient une partie de la vérité.
Oui.
Et que c'est peut-être en rassemblant tous les morceaux que vous allez réussir à vous en sortir.
D'accord.
Donc à un moment donné, c'est vrai que vous pouvez essayer de rester tout seul dans votre coin avec vos convictions et essayer de trouver le chemin vous-même tout seul. Pourquoi pas, vous allez peut-être y arriver si vous avez un peu de chance, mais ça va être très très compliqué.
Le jeu est clairement conçu pour mélanger les
oui.
divers populations.
Ouais, malgré tout. Alors après, il y a des groupes de magiantistes, des groupes d'adeptes adeptes du Temple et des groupes de Démortaines,
oui, évidemment,
qui sont à fond dans leurs convictions, qui sont peut-être même d'ailleurs proches du fanatisme. C'est pas du tout impossible à jouer, au contraire. C'est une des libertés du jeu, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi on a envie de participer, qu'est-ce qu'on a envie de défendre, quels sont voilà, les buts et les motivations de vos persos vont être. Ça, c'est quelque chose qui est déterminant dans
donc,
tout ce que vous
pourrez
jouer.
Tu disais que le contexte était plutôt rural, donc finalement, ils seraient plutôt au service d'un village ou d'une.
Oui, a priori, à moins qu'effectivement le point de départ entre les meneurs et les joueurs soit décidé d'être localisé dans une cité, ce qui peut tout à fait être le cas. Hein. Auquel cas, effectivement, les préoccupations de ces personnages ne seront pas les mêmes que ceux qui ont grandi et vécu dans la campagne depuis leur plus tendre enfance.
D'accord. Mais a priori, les scientistes, on les trouvera plutôt en ville.
Non. Oui, enfin en même temps, c'est intéressant pour eux de se déplacer dans la mesure où ils ont accès à la source de leur énergie, le flux, à l'extérieur des cités. Faut bien aller le chercher, ce minerai, tout.
Oui, ils font de la prospection.
Voilà, bien de manière obligatoire. Donc c'est vrai que finalement, tout le monde est amené à se déplacer et c'est là où les rencontres se font, ce qui peut créer des tensions.
Très bien. Oui, bien, je pense que là, nous avons un bon portrait du jeu. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu du point de vue éditorial, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il sera ?
À l'heure actuelle, il existe le premier livre de la gamme qui s'appelle Univers, le livre 1, qui pose, donc, comme son nom l'indique, les bases de l'univers des Ombres d'Estérène, qui vous permet en fait d'en comprendre les mécanismes, le fonctionnement, et qui surtout vous donne à peu près le même niveau de lecture et de compréhension que tous ceux qui peuplent l'univers d'Estérène.
D'accord.
Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité.
Ah, bien, bien. D'accord.
Parce qu'en fait, les personnages vont être amenés à découvrir un certain nombre de choses. Mm-hmm. Et le point de départ, on veut qu'il soit le même pour tout le monde.
D'accord.
Vous n'en savez pas forcément beaucoup plus que les autres. Par contre, vous allez être amenés à en découvrir peut-être plus que les autres.
D'accord.
Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment vous allez réussir à vivre avec ça.
D'accord.
Est-ce que ça va vous mettre sur le banc de la société ou est-ce que vous allez devenir des personnages un peu emblématiques, singuliers, parce que justement vous allez révéler une sorte de vérité ? On verra.
D'accord.
En tout cas, le livre de base vous permet...
Et donc le joueur, a priori, peut lire tout le livre de base ?
Absolument.
Ah, bien, ça.
Absolument,
c'est
même une invitation une dans la mesure où c'est un grand voyage. C'est un voyage à travers toutes les terres de Tricazel qui vraiment vous donne une vraie couleur, vous donne les ambiances, etc. Vous familiarise avec ce monde et les peuples qui l'habitent. Il vous donne aussi les clés pour jouer puisqu'il y a le système de jeu.
Oui.
C'est quand même important. Et donc avec ça déjà, vous allez pouvoir vous occuper un petit peu parce que l'univers est décrit de telle manière, alors c'est un parti pris, mais d'un point de vue assez subjectif, où les gens vous parlent d'eux, vous racontent leur vie, leurs histoires. Et il y a un certain nombre, déjà dans ce livre de base, de points d'accroche de scénario.
D'accord.
Avec pas mal de PNJ qui sont énumérés, pas mal de situations qui peuvent déclencher toutes sortes de développements scénaristiques.
D'accord.
Pour suivre, on a sorti un deuxième livre qui s'appelle Voyage,
oui,
qui là est davantage destiné aux meneurs de jeu.
D'accord.
Ce livre, en fait, c'est l'écran.
Oui.
Donc vous avez l'écran, vous avez une carte au format A2 qui se dépose sur votre table autour de laquelle les joueurs peuvent vraiment voir et suivre leur parcours. Et vous avez dans le livret toute la cartographie développée du monde de Tricazel, dans la mesure où il y a une centaine de lieux qui sont détaillés.
D'accord.
Chacun de ces lieux, c'est pas seulement de vous dire « Oh, regardez comme cette colline est belle
!»
C'est pas seulement contemplatif. L'idée, c'est aussi de vous dire « Ah, mais on raconte que la nuit tombée sur cette colline, on aperçoit des choses. »
D'accord, ok, c'est
peut-être
des pistes
que vous
de
allez
scénario
voir,
liées.
Voilà. L'idée, c'est de faire des accroches de scénar selon les différents lieux, etc. De manière à ce que si les joueurs décident d'aller d'un point A à un point B, le meneur puisse sortir de sa manche toutes sortes de situations plus ou moins périlleuses.
Prêt à jouer, quoi.
Voilà, prêt à jouer en fonction des lieux visités.
D'accord.
Il y a des scénarios qui accompagnent ce supplément, un petit bestiaire et une galerie d'une douzaine de PNJ.
Alors, du coup, j'ai une question. Si le livre de base est lisible par les joueurs. Comment le MJ peut-il construire un scénario qui touche à ces éléments surnaturels ?
Comment il peut faire ?
Oui, ouais.
Tout simplement parce que déjà, il y a un certain nombre de pistes qui sont quand même évoquées, davantage dans le livre de voyage.
Ah oui, qui lui est réservé.
Qui lui est davantage destiné. Ensuite de ça, c'est des éléments qui vont arriver peu par la suite.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est-à-dire qu'on est dans le développement de la gamme. Le jeu est sorti en septembre, donc c'est quand même il n'y a pas très très longtemps.
Oui, d'accord, ok.
Il faut nous laisser un petit peu de temps pour réussir à poser un certain nombre de choses qui nous permettent vraiment d'aboutir au résultat qu'on attend, à savoir un vrai choc.
D'accord.
Parce qu'en fait, l'idée, l'idée, c'est moi, c'est très simple, hein, c'est vraiment un parti pris. Pour qu'il y ait un vrai twist scénaristique, il faut, pour que ce soit déstructurant, que vous soyez accoutumé, habitué, vous preniez
à une certaine façon
de vous
réfléchir.
Vos aises, vous voilà, vous commencez à vraiment vous familiariser avec cet univers, son fonctionnement, ses rouages, ses mécanismes. Vous créez des liens avec des personnes, etc., etc.,
d'accord,
etc.
D'accord.
Vous évoluez en fait dans un premier temps dans une espèce de couche relativement superficielle de l'univers, c'est-à-dire superficielle, c'est-à-dire supérieure, elle est au-dessus, d'accord ? Mais on l'a fait de la plus dense possible.
D'accord.
Elle est quand même profonde, cette première couche, dans laquelle vous allez pouvoir vivre énormément d'aventures, plein d'histoires, il se passe déjà plein de trucs. Limite, on pourrait en rester là.
Tel que tu le décris, ça me fait beaucoup penser à Dark Earth.
D'accord, mais en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'ambition, vraiment, c'est vraiment l'ambition du jeu, c'est qu'on vit là-dedans des histoires qui vont être celles des joueurs. Et qu'à un moment donné, il va faire jour le fait que peut-être tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on pensait, tout ce qui pouvait nous motiver, nous pousser à faire des choix, à faire des choses, n'était pas forcément ce qu'on croyait.
D'accord.
Et pour que ça ait de l'impact, pour que ça pèse, pour que ça fonctionne vraiment, je pense qu'il faut, entre guillemets, prendre un peu son temps, s'émanciper dans cet univers, se l'approprier, peut-être même d'ailleurs se rendre indispensable à ce niveau-là, et de voir à quel moment, effectivement, quand les éléments seront publiés, le meneur va-t-il commencer à déconstruire ce qui a été construit. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de poser les joueurs face à un moment donné à des choix décisifs. De se dire, purée, je suis obligé, entre guillemets, de remettre en question un certain nombre de choses. Ça va les ébranler. Et c'est intéressant parce que c'est déjà quelque chose qui se fait jour, d'une certaine manière, à travers tous les scénarios qui sont déjà publiés, notamment même dès le kit de démo qui a été publié dans le JDR Mag numéro 11. C'est des scénarios qui posent des questions aux joueurs. Qui posent des questions. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous pensez ?
Tout compris.
Ça, mais ça n'apporte pas la réponse, mais ça amène le questionnement.
D'accord.
Parce qu'à partir du moment où on se questionne, on remet en question un certain nombre de choses, c'est la porte ouverte au changement, à l'évolution, à la mutation.
Alors, ce programme est alléchant et du coup, on a envie de savoir.
Oui, alors on se fait un peu, on se fait presser justement pour que ces choses-là arrivent.
Ouais.
On y travaille d'arrache-pied, clairement, il faut le dire. Maintenant, on y apporte un soin décisif parce qu'on sait que ça va être très très important et que c'est très attendu d'ores et déjà, qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec ça. Et aussi, on a encore beaucoup de choses à développer dans cette première couche.
Oui, d'accord. Okay.
Je veux dire, il y a encore plein de choses sur lesquelles on est passé encore relativement vite, qu'on va d'abord développer avant, effectivement, d'arriver un petit peu dans le back-office.
D'accord, d'accord. Ok. Et donc, sur, pour cette première partie, on va dire, pour cette couche supérieure, donc, si c'était un gâteau, ce serait la chantilly.
C'est ça.
Et,
ouais.
Et donc, pour la chantilly, encore, vous avez prévu combien de suppléments à peu près ?
Encore un certain nombre.
C'est pas très précis.
C'est pas une réponse très précise, je m'en excuse, mais c'est quelque chose qui évolue, qui est à géométrie un peu variable. À l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour nous, c'est qu'on est sur un jeu très communautaire.
Oui.
C'est-à-dire que la communauté est invitée vraiment à participer, à échanger autour de son expérience de jeu avec les auteurs et l'équipe de Forge Songe qui crée le jeu. C'est quelque chose aussi dont on s'inspire d'une certaine manière certains des retours effectivement sont assimilés et nous permettent d'une certaine manière d'ajuster sur deux trois choses et du coup on se laisse aussi le temps de pouvoir mûrir un certain nombre de choses pour vraiment une fois qu'on les, on fait le choix de les publier, que cela effectivement alimente la gamme,
ouais.
Là où elle en a besoin pour de vrai.
Oui,
c'est vrai,
oui.
Que ces secrets qui sont quand même déjà tracés, hein, ils sont déjà élaborés. Si les meneurs pouvaient avoir la crainte de devoir faire des marches arrière ou des choses un petit peu acrobatiques avec leurs joueurs, qu'ils se rassurent, dans la mesure où je pense que ça restera quand même une forme de surprise.
D'accord.
Et pour ça, c'est vrai que bon, on prend un peu notre temps, mais c'est, je pense, vraiment pour le bien de la gamme et le bien du jeu. On est sur une gamme fermée. Je le dis, c'est-à-dire que là, on a ouvert les portes d'Estérène, elles se refermeront à un moment donné.
D'accord.
C'est pas tout de suite, mais voilà, c'est une.
Mais vous voulez les refermer en laissant le monde vivre de lui-même, ou alors vous allez le pas, non pas le détruire, mais
le
changer tellement fondamentalement que finalement il sera
non,
plus
mais
possible.
C'est, mais
de
c'est
jouer
qu'à un moment donné, je pense qu'on aura tout dit.
Oui,
à un moment donné, on aura tout dit, et le but du jeu, quand même, et c'est déjà le cas d'ailleurs, c'est très intéressant de l'observer, c'est que les meneurs s'approprient l'univers. Nous, on est là pour leur fabriquer le plus gros bac à sable possible, le truc avec le plus d'outils à l'intérieur pour qu'ils s'éclatent avec leurs joueurs. Si à un moment donné, effectivement, en grattant le sable, ils découvrent un truc auquel ils ne s'attendaient pas, bingo, là on a réussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les histoires qui se jouent dans l'univers d'Estérène nous échappent et nous dépassent. Nous, effectivement, quand on va commencer à amener la campagne, etc., les choix qui sont faits scénaristiquement dans le fait d'amener les joueurs à découvrir un certain nombre de choses de la manière dont nous, on va le faire, est quelque chose qui peut à la fois correspondre à ce que certains attendent, ou pour ceux qui auraient déjà suffisamment avancé, donner de la matière, même si c'est pas réutilisé tel quel, donner des idées par-ci par-là de l'utilisation qu'ils pourraient en faire. De toute façon, on sait bien une chose, c'est qu'à partir du moment où le livre sort, il nous appartient plus, et on le voit déjà sur la communauté, sur le forum, il y a plus de 400 personnes qui sont inscrites, c'est voilà, ils se sont appropriés l'univers, et ça c'est notre
Donc là vous avez sorti l'écran, et là tu viens de parler d'une campagne.
Oui, il y a une campagne qui est en train d'être mise en place.
C'est ce qui sera ce sera le prochain.
C'est pas le prochain, il y a le prochain qui sortira le mois prochain, c'est un gros scénario sous la forme d'un huis clos monastique, un petit peu à l'image du film Au nom de la rose, qui met en lumière des aspects du temple survolés un petit peu dans les livres, qui là permettent vraiment de rentrer un peu dans le détail de qui sont ces gens qui organisent la vie du temple, comment vit-on dans un monastère, comment cette société s'organise et à quoi elle-même doit-elle faire face. Et ce qui est intéressant, c'est que clairement ce supplément qui s'appelle le monastère de Tuas va encore une fois contribuer à amener encore son lot de questionnements et commencer à dessiner un petit peu une piste vers là où
donc
on
là,
amène les joueurs.
Là, ce sera un supplément scénario centré sur le temple.
Oui, on peut dire ça, ouais.
Et vous allez décliner ça aussi pour les deux autres
Alors, je ne sais pas si on va systématiser. Là, c'est vrai que cette idée s'est faite jour et que le scénario qui supporte toute cette architecture-là est vraiment solide pour le permettre. Après, si c'est pertinent, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un objectif. C'est pas forcément un objectif. D'autant que là, en plus de ça, la galerie de personnages qui accompagne le scénario, sachant qu'il y a encore beaucoup de PNJ qui vont être associés à ce scénario, les meneurs, ceux qui, par exemple, ont un groupe qui, finalement, fréquente de très loin le temple, auquel cas un scénario comme celui-ci n'aurait pas vraiment de sens, la galerie de PNJ qui accompagne ce scénario peut quand même être utilisée comme autant de cartouches pour le meneur, pour étoffer son univers d'un certain nombre de figures très très sympathiques. donc voilà, après effectivement à un moment donné, quoi qu'il arrive, il y aura publication de guides entre guillemets de factions, c'est-à-dire que le temple, la magiance et les démortaines se verront vraiment développés dans leurs architectures, leurs organismes, leur société, leurs rites, leurs traditions, leurs cultes, de manière isolée, chacun un ouvrage qui sera publié par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui sera fait, et sans doute que d'ailleurs d'ici là ou entre temps des scénarios amèneront de la matière pour utiliser ce qui sera publié dans ces livres-là en question. Après, c'est vrai que je pense que la prochaine sortie après le monastère de Thuas en avril, ça risque d'être le premier chapitre de la campagne.
D'accord.
Voilà, donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, clairement, de dire, voilà, un petit peu vers quoi on vous emmène.
Et donc, vous allez faire une campagne en plusieurs volumes ?
Plusieurs parties, ouais.
D'accord.
Ouais. C'est une grande, grande campagne.
Combien de volumes, a priori ?
Au moins une dizaine.
Oh non, deux noms !
Ouais, je pense au moins une dizaine, parce que c'est une campagne qui est très dense. Il faut imaginer que les Ombres d'Estérène, il y a un background qui est vraiment, vraiment, vraiment très développé, et qui du coup va nous permettre vraiment de s'amuser comme des petits fous à l'intérieur, à vous faire passer en revue un petit peu tout ce qui a pu être élaboré de manière construite et élaborée pour arriver finalement à un dénouement assez, je l'espère, marquant.
D'accord. Ok. La découverte du fond des choses se fera au travers de cette campagne ?
Ah bah, à notre façon, oui.
D'accord.
Après, encore une fois, les éléments qui seront publiés à travers celle-ci pourront être repris et réinterprétés par les meneurs à leur sauce.
D'accord.
Si toutefois les scénarios de la campagne leur convenaient pas.
Parce que tu dis une campagne d'une dizaine de volumes, enfin d'une dizaine de parties, c'est quand même assez imposant à faire.
Oui, mais nous on est parti quand même pour une grande aventure. Hein.
Ouais,
c'est vraiment l'objet, c'est
d'accord.
celui-là. Hein. C'est pas seulement, c'est pas une gamme de 4 livres. Hein.
Ouais,
les Ombres d'Estérène, okay. Non, clairement pas. Hein. on est sur une gamme. C'est pour ça qu'aussi on prend notre temps voilà, c'est important pour nous. C'est
vrai qu'il faut aussi prendre le temps de les faire jouer. Quoi.
C'est prendre le temps de les faire jouer. Pour que ce soit quelque chose qui prenne du temps à jouer, il faut que ça soit bien construit, bien charpenté, et que vous réalisez aussi que tout ce qu'on a déjà publié finalement est riche de sens. C'est-à-dire que tout est connecté.
D'accord.
Et il y a des choses publiées dans le livre 1 dont on...
Oui, donc éventuellement, faudra relire le début pour voir
c'est
un petit peu...
Rien n'est publié au hasard, d'accord ?
D'accord.
Tout ce qui est écrit, quelque part, est pensé avec une intention.
D'accord.
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus à manœuvrer. Parce que ça fait beaucoup d'informations connectées les unes d'entre elles. Ça fait un réseau quand même très dense. Et qu'il faut être vigilant, guetter les incohérences, etc., etc. Donc c'est quelque chose pour l'équipe qui est quand même une charge de travail assez importante. Néanmoins, c'est ce qui lui donne tout son sens et toute sa profondeur. C'est-à-dire que quand vous allez réaliser, peut-être l'année prochaine, à l'occasion de la lecture d'un supplément, que ce que vous aviez lu un an auparavant dans le premier livre fait écho à ce que vous êtes en train de lire, vous allez vous dire ah ouais d'accord.
Ah c'est chouette. Ça.
Bah ouais, mais on est dans cette logique-là.
D'accord.
Clairement.
Très bien.
Donc voilà, parce que pour moi c'est ce qui fait sens. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Alors après, il y en a peut-être qui vont passer à côté de ces infos. Hein. Mais nous, on s'éclate vraiment à les mettre en scène,
à les distiller.
Et je sais que l'équipe de Forge-Songe, là-dessus, elle est vraiment ultra compétente dans la mesure où le projet d'Estérène vraiment l'intègre dès le départ. Et que si les grandes lignes sont posées, c'est aussi quelque chose qui permet à chaque supplément d'apporter sa pierre à l'édifice, quoi.
D'accord. Eh bien, écoute, je pense que là, on a une bonne vision de ce que va être la gamme. Alors, et maintenant...
Autre chose, c'est que là, on parle des livres, mais c'est quelque chose aussi un petit peu de singulier. On est content, nous, d'avoir tenté cette expérience-là. Les Ombres d'Estérène, c'est aussi un univers, on peut le voir en feuilletant les livres, un univers graphique. Et c'est aussi...
Oui, c'est vrai, les illustrations sont magnifiques. Hein,
oui, bravo à eux. Franchement, les illustrateurs ont fait un travail absolument incroyable. Je pense que ça augmente vraiment l'expérience et l'immersion dans les...
Et il y a la musique également.
Et voilà, j'allais y venir. C'est très important, c'est que cette illustration, elle est visuelle et sonore. Ça, c'est vraiment un challenge qu'on a voulu tenter.
Alors, d'ailleurs, normalement, chers auditeurs, en ce moment même, vous devriez entendre en fond ou alors au début de ce podcast ou à la fin, je ne sais pas encore comment je ferai le montage, mais il devrait y avoir des extraits de ces musiques.
La musique des ombres. C'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on est dans un jeu d'ambiance. Et pour soutenir le roleplay, on est partisans effectivement de la musique. Donc on sait que chacun utilise ses playlists perso, etc. Et on a voulu vraiment élaborer en complicité avec Delphine Bois qui a tout fait. elle a composé, enregistré, interprété la musique des Ombres d'Estérène.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a notre couleur musicale.
Ouais.
Et que C'est quelque chose.
Alors, au niveau du processus de création, c'est quelqu'un qui joue au jeu, qui a basé sa musique sur le jeu ou.
En fait, les deux se sont influencés. C'est intéressant, c'est que l'album, il était en chantier depuis deux ans et demi. Hein. C'est
d'accord.
Un gros travail et que beaucoup d'illustrateurs et d'auteurs ont écrit et dessiné avec la musique dans les oreilles. Donc finalement, il y a aussi de cette musique dans les textes et les images qu'on lit et qu'on voit. De la même manière, elle-même, Delphine, a pu avoir accès à un certain nombre d'illustrations et de textes pour
s'en inspirer,
comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agissait, etc. Donc les deux choses sont vraiment imbriquées. On n'est pas simplement dans le goodies. C'est très important.
Oui, oui.
C'est une partie de la gamme.
Ah, ça c'est chouette.
Dans la mesure où, en tout cas, les premiers retours sont vraiment très positifs, on est très très content. Moi spécifiquement pour Delphine, parce qu'elle a fait vraiment un gros travail. Ça nous encourage à recommencer
et à
développer parallèlement à la gamme des livres
une gamme musicale,
une gamme voilà d'ambiance et de son et de musique qui vont vous permettre d'explorer en écoute les univers de la magiance, du temple, des Démortaines, de certaines cités, de certaines régions avec leurs spécificités musicales et sonores. Et je pense que là, on va arriver finalement à une expérience globale vraiment très 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 intéressante, quoi.
D'accord.
Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire.
Pour sortir un petit peu des ombres d'Esteren, est-ce qu'il y a pour Agathe d'autres projets dans les tuyaux?
Alors,
ou pas?
En jeu de rôle, on reste attentif à un certain nombre de projets qui sont encore en phase d'élaboration, de construction.
D'accord.
C'est clair.
Par d'autres équipes.
Par d'autres équipes ou même chez Forge Songe.
D'accord.
Alors, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même très largement investi sur la gamme des ombres des sirènes. Je pense que c'est bien aussi de rester attentif et à l'écoute de tout ce qui peut être fait, écrit et construit d'une manière générale, de voir un petit peu quelles sont les ambiances, les tendances en création. Donc on a eu quelques propositions.
Oui.
Depuis la sortie des Ombres d'Esteren, c'est clair que Agathe RPG n'existe que depuis que le livre est sorti, puisque même si la structure existe depuis plus de 4 ans, c'est notre première publication. Donc je pense que d'un point de vue purement éditorial, on a fait la démonstration qu'on savait pas trop mal faire notre travail.
Et je confirme, oui.
Voilà. Bon, je pense qu'effectivement, on a rendu honneur aux années de travail dispensées par l'équipe de Forge Songe. Et pour nous, c'est très important de mettre en valeur chacun de ceux qui ont participé à fabriquer ces jeux, parce que tout simplement, c'est un travail de fou. C'est un travail de passionné, c'est un travail de patience, c'est un travail de partage, et c'est quelque chose qui nous touche, nous, vraiment en tant qu'éditeur. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que à la fois on est attentif au projet aussi qualitatif que celui d'Esteren, on va dire dans le fond du jeu, que dans sa forme, et qu'aujourd'hui, on regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et on étudie les propositions qui nous sont faites. Pour l'instant, on peut pas dire grand chose, mais effectivement, on verra si dans les mois qui viennent quelque chose peut se faire ou pas, sachant que pour l'instant, on est à 400% sur les ombres d'Esteren, qu'on a vraiment envie de porter avec toute notre énergie, notre passion, tous nos moyens pour vraiment parvenir à la faire exister au niveau où on a envie qu'elle soit, quoi.
D'accord. Très bien. Moi je n'ai pas d'autres questions. Tu veux ajouter quelque chose d'autre?
Moi je suis très très content aujourd'hui d'être à Rennes, à la convention Eclipse. On n'avait pas pu la faire l'année dernière et que je suis vraiment très très content que le Esteren Tour ait fait étape ici à Rennes pour ce week-end, parce qu'on a en face de nous vraiment des joueurs extraordinaires. On a fait une partie hier soir jusque tôt dans la matinée, absolument délicieuse. On s'est régalé du début à la fin, une ambiance incroyable à la table, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail. C'est aussi pour ça que on investit tout ce temps, cette énergie et cet argent quelque part. C'est aussi pour vivre ce genre d'instant, ce genre de moment, et vraiment on remerciera la Lune Rousse et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette convention et de cette rencontre qui Oui, qui contribuent vraiment à donner du sens à toute la démarche. Et c'est très important quand on peut se déplacer en plus avec nos auteurs, illustrateurs et tous ceux qui participent chez Forge Songe à la création des Ombres d'Estérène. C'est important de garder ce contact, ce lien avec les joueurs et le public, dans la mesure où si on fait tout ça, c'est pour eux. C'est pour vivre ce qu'on a vécu hier autour d'une table avec des gens, peut-être qu'ils se sont jamais vus, mais où il se passe un truc. On dépasse plein de choses et on est là, on est plongé dans les ombres, il se passe plein de trucs et on a l'impression de se connaître depuis 20 ans alors qu'en fait ça fait juste un quart d'heure qu'on joue. Et là c'est assez incroyable, c'est la puissance du jeu de rôle et franchement je trouve que là elle est vraiment mise en valeur à l'occasion de cette manifestation Eclipse Arène. Et franchement chapeau, parce que c'est un très très bon moment à passer et c'est quelque chose qui nous redonne beaucoup d'énergie parce qu'on en dépense et c'est important de recharger les batteries et on le fait ici et c'est voilà, merci,
d'accord,
c'est génial.
D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup et puis bien peut-être à tout à l'heure autour de la table parce que tu m'as donné envie, alors je pense que je vais jouer.
C'est le bienvenu.
Bon allez, ciao,
ciao, à bientôt.